Alors, vous êtes dans le cours de survol de la Bible. C'est un cours année. On commence maintenant et ça se termine en juin. Il y a plusieurs moments de pause dans l'année. Il va y avoir un temps de un mois environ de prière au mois de décembre. Et il va y avoir probablement un autre mois de prière, peut-être à la fin, possiblement un autre. On est en train de confirmer tout ça. Mais pour ceux qui êtes des habitués ici, bien, vous vous rappellerez qu'au printemps, on a pris un bon temps de prière les dimanches matins, et c'est notre intention de continuer à travailler sur la vie de prière de l'Église. Donc, on veut essayer de balancer un peu tout ça, parce qu'on sent que ces moments-là où on prie en Église le dimanche matin, c'est un moment qui est béni. On va aller dans un mot de prière, justement, puis après ça, je vais vous introduire le cours. Je vais vous présenter le cours. Éternel notre Dieu, je veux te remercier pour ta parole, Seigneur. Elle est précieuse, Seigneur. On y trouve des paroles de vie, des paroles de sagesse, des paroles qui donnent un sens à notre vie, qui donnent une vision, Seigneur, pour notre vie, des paroles qui nous soutiennent, qui nous remplissent d'espérance, des paroles qui nous consolent, qui nous aident à comprendre le monde, qui nous aident à comprendre, Seigneur, ce monde où il y a beaucoup de joie et beaucoup de souffrance, qui nous aident à comprendre la vie et la mort. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Père, pour ton esprit. Ton esprit qui nous permet de saisir ces choses. Et ces lettres deviennent, Seigneur, pour nous clairement, dans notre expérience, parole de Dieu. Seigneur, la Bible est inspirée par toi. C'est la parole de Dieu. Mais sans ton esprit, Seigneur, ça demeure une lettre morte pour nous. Et je veux te rendre grâce pour ton esprit qui habite en nous, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre ton plan pour l'humanité. L'Ancien Testament qui nous parle des êtres humains, de leur lutte, de leur faiblesse, de leur combat, de leur victoire. Où on trouve tant d'histoires qui nous inspirent, mais qui nous parlent de nous aussi, qui nous aident à comprendre nos propres cœurs, qui nous apprennent à prier, qui nous apprennent à louer, à combattre. Merci Seigneur pour l'Ancien Testament, qui nous dit que tu es là depuis toujours, depuis le début de notre histoire, Seigneur. Je te prie, Père, de bénir cette année où on va survoler ensemble toute la parole de Dieu. Viens, Père, nous instruire, viens nous aider à apprécier, à aimer davantage les livres de ta parole. Seigneur, viens nous aider à grandir dans notre foi. Que nous n'apprenions pas seulement des choses sur toi, Seigneur, mais que nous te rencontrions personnellement et que tu transformes et façonnes nos vies. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Amen. Alors, on va faire circuler une petite feuille très improvisée, survol de la Bible. Si vous pouvez inscrire votre nom et votre adresse courriel, si vous êtes certain que vous l'avez inscrit la semaine dernière sur la liste que j'avais là, peut-être pas besoin de le réinscrire, mais c'est pour bâtir la liste d'envoi. C'est ça. Ce que je vais faire, c'est que vous allez recevoir les notes soit le vendredi ou samedi par courriel, mais plus probablement le samedi. La raison est simple, c'est que je préférais que vous ne lisiez pas les notes avant le cours, parce que je vous remets carrément mes notes à moi, les notes du prof, au complet. D'accord? Alors, j'aime autant qu'on les découvre ensemble, puis qu'après, vous puissiez les annoter. Donc, vous avez tout. Je ne vous donne pas simplement un esquisse, un outline, comme on dit en anglais, mais je vous donne vraiment toutes les notes. Prenez des notes le dimanche matin, tout ça. Je vais quand même vous l'envoyer le samedi au plus tard, pour ceux qui aiment soit avoir ça sur votre ordinateur, le retoucher, n'importe quoi. Et puis, le dimanche matin, on va avoir des copies papier, puis on balancera tranquillement de semaine en semaine la quantité de copies papier que ça va prendre. Mais si vous inscrivez votre nom sur la liste d'envoi, de toute façon, vous allez le recevoir, puis vous pouvez l'archiver, puis retourner à ça éventuellement pour d'autres études bibliques ou d'autres questions que vous auriez. Ça va? D'accord? Alors, peut-être juste vous assurer que vous êtes bien sur cette liste, si vous avez une adresse courriel et que vous avez accès à Internet, bien sûr. Autrement, on aura toujours des copies papier ici. Comme j'ai mentionné, en principe, moi, je reste ici. Si jamais le groupe de Mathieu, ils sont plus nombreux, c'est exigu pour eux, puis que ça rentrerait mieux pour nous d'aller là-bas, bien, on ira là. L'avantage, si on reste ici, évidemment, c'est que mes leçons sont enregistrées, sont sur le site web. Donc, si vous manquez une semaine, vous voulez aller suivre tout ça, c'est possible de le faire en allant suivre à ce moment-là. Les feuilles que je vous ai remises la semaine dernière, vous pouvez les jeter aux poubelles. Parce qu'il y avait un manque de flexibilité au niveau du matériel, j'ai contacté les gens qui ont les droits, tout ça, et c'est un survol beaucoup trop rapide. Donc, je vais partir avec le cours que Alexandre Marquis a monté en 2008, et puis je vais l'adapter un peu. Alexandre avait passé deux sessions sur l'Ancien Testament. Nous, on doit passer en trois sessions écourtées à travers toute la Bible. Alors, je vais l'adapter un peu. Il y a certains livres où on va devoir comme sauter, des fois chronique, roi. Bon, il y a des choses qu'on peut faire de ce côté-là. Donc, c'est ça. Fait qu'on va travailler à partir de ce matériel-là. Vous êtes dans un survol de la Bible. Alors, si vous regardez la première page, vous avez les objectifs du cours, d'accord? Présenter une introduction générale de l'origine des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ça veut dire qui est l'auteur, quand on peut le savoir. Dans certains cas, on ne sait pas. On pense qu'on sait c'est qui, mais on n'a pas une absolue certitude. Alors, qui est l'auteur, les dates de composition, à quand remonte ce livre-là, quel genre littéraire est-ce qu'il s'agit? Quels sont les principes qu'on doit prendre pour aborder ce genre littéraire-là, pour le comprendre? Donc, il y a un volet vraiment là, pédagogique à ce cours-là, un peu technique peut-être, où on n'est pas dans des dévotions, d'accord? On n'est pas dans des méditations. On est vraiment là pour comprendre comment aborder ce livre-là. Quelle est sa relation avec l'ensemble du canon des Écritures, de Genèse à l'Apocalypse? Quel est son rôle dans l'ensemble de la Révélation? Et c'est ça, comprendre le message théologique au point 3, christologique de l'Ancien Testament, pour la première partie. Alors, je vais essayer toujours d'identifier les pistes qui nous pointent vers Christ, puisque Christ est le personnage central pour comprendre, il est vraiment la clé pour interpréter l'ensemble des Écritures, pour bien comprendre le plan de Dieu. Donc, je vais montrer en quoi les différents livres pointent vers Christ. Et évidemment, quand on va arriver dans le Nouveau Testament, ça, les choses vont tomber en place. Je pense que c'est pas mal ça. Est-ce que vous avez des questions sur les objectifs du cours? Une ou deux questions brèves. Puis je vais répondre à ça si vous en avez. C'est bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées à faire des lectures plus avancées? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés à ce que je vous pointe vers des lectures pour faire des lectures parallèles puis pousser un peu plus loin? Oui? OK. D'accord. Alors, la semaine prochaine, je vous ferai quelques suggestions de lecture. Je vais y aller dans différents... je vais y aller avec des trucs peut-être d'un 200-225 pages, puis je vais y aller avec des choses un peu plus costaudes, 600-700 pages, peut-être du matériel en anglais aussi, mais je vous ferai des recommandations. Je peux vous faire des recommandations sur des introductions à chacun des livres, un peu ce qu'on fait ici dans le cours, mais d'autres livres aussi qui nous aident vraiment à voir la christologie dans l'Ancien Testament, puis après ça dans le Nouveau Testament. Donc, il y en a d'autres aussi, lectures qui seraient pas mal intéressantes à faire. Très bien. Alors, pour ceux qui s'ajoutent, juste vous assurer, je l'ai mentionné plus tôt, il y a une feuille qui circule. Assurez-vous que votre nom est sur la liste d'envoi. Et puis, pour avoir les notes, vous allez les recevoir le samedi, vous allez recevoir toutes les notes du prof. Donc, moi, je vous encourage même à ne pas les lire avant d'arriver au cours. Et puis, vous aurez la latitude de les annoter pendant le cours et puis de les relire après, quoi que ce soit. C'est quoi votre livre préféré de la Bible? Quel est votre livre préféré de toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse? Moi, c'est Jean. Okay? Moi, c'est l'Évangile de Jean. Ça, c'est mon livre préféré. Oui, Linda? Romain. OK. Intellectuel, cartésien, que ce soit clair. Oui. L'Apocalypse. Pourquoi l'Apocalypse? OK. OK. L'Apocalypse, c'est un livre extrêmement inspirant. C'est sûr qu'il y en a qui l'étudient pour essayer de comprendre où est l'Antéchrist, là, mais c'est un livre très inspirant. Daisy, Suzy, Marisol, les psaumes, absolument. Monsieur Carson a dit que ça prenait du vécu pour apprécier les psaumes. Je pense que c'est un compliment, Suzy. Les psaumes, OK. Marisol aussi, les psaumes. C'est un des livres préférés des chrétiens de tout temps, hein, on s'entend, les psaumes. Nathalie? Les épîtres pastorales? Ah, c'est bon, ça. Ça a été longtemps ma section préférée, vous devinerez pourquoi. Oui? Les proverbes, un livre de sagesse. Parce que t'en manques ou parce que t'en as? Parce que t'en manques. OK, c'est bon. C'est bon. T'en demandes. Absolument. Mais d'ailleurs, les proverbes sont plus accessibles au début que les psaumes. Hein? Parce que c'est des sentences. Les jeunes aiment les proverbes parce que c'est des sentences. C'est clair. T'as une leçon, puis là, elle te frappe toujours comme une vérité. Maintenant, souvent, les gens vont trouver difficilement accessible l'Ancien Testament. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes en train de parler du Seigneur à un ami, votre réflexe, c'est peut-être pas de dire « Commence avec les juges. Lis les juges, tu vas découvrir Dieu. » Tu sais, il y a des petits malaises. Finir le livre des juges, c'est peut-être pas la meilleure section pour connaître Jésus. Fait que l'Ancien Testament, il y a quand même des choses hein, qui nous mettent mal à l'aise. Quels sont les éléments qui font qu'on est mal à l'aise ou que plusieurs personnes sont mal à l'aise avec l'Ancien Testament? Daisy. Oui, tous les moments, aux yeux de certains, les moments très violents, sanguinaires, où les gens sont... Dieu commande le sang, si je peux dire. Hein? D'autres choses? Oui? Contexte culturel qui est extrêmement éloigné, c'est ça que tu veux dire? Oui, définitivement. D'autres choses? Qu'est-ce qui fait que l'Ancien Testament, c'est peut-être pas là qu'on est porté en premier? Oui? Oui, oui. Alors, comment la femme est présentée, le rapport entre l'homme et la femme, disons qu'il y a des... ça, le fossé culturel avec notre époque puis nos contemporains est encore plus grand. Suzy?
Le fait que ça équilibre le cœur humain dans sa lévade. Autant, le Nouveau Testament nous inspire à nous dépasser, à être meilleurs, mais l'Ancien Testament est très descriptif des erreurs de l'homme, puis des fois, c'est dur.
OK. Le fait qu'on voit vraiment toutes les horreurs du cœur humain dans l'Ancien Testament, c'est drôle, j'y avais jamais pensé comme ça, mais c'est vrai. Tu sais, lire l'Ancien Testament, c'est un peu comme lire la presse le matin. Il y a des parties de l'Ancien Testament, tu dis, j'ai pas le goût de lire le journal, j'ai pas le goût d'écouter les nouvelles, il y a plein de problèmes. C'est vrai que l'Ancien Testament, tu vois l'homme dans toute son horreur. Oui, une dernière intervention. OK. OK.
La miséricorde, c'est vraiment la différence entre les deux. Jésus est arrivé, il pardonne les péchés, les iniquités. L'Ancien Testament lui dit, si vous avez fait ça,
l'affirmation de la loi, c'est clair que Jésus devant, par exemple, la femme adultère, la situation avec la femme adultère, Jésus dans son traitement de la loi, oups, il nous déstabilise un petit peu ici, là. Mais donc oui, c'est ça qui ressort. En même temps, on va passer pas mal de temps dans l'Ancien Testament, puis on voit que la grâce est très, très présente dans l'Ancien Testament. Mais c'est vrai, la loi est là avec ses conséquences. Nicole, tu avais une dernière intervention. OK. Les linteaux. Alors, l'anéantissement de beaucoup d'innocents. OK. Des enfants qui ne méritaient pas de mourir. On va nuancer ça un petit peu pendant la session, mais c'est vrai, par exemple, que je veux dire, tu regardes toutes ces villes qui sont massacrées, puis tu dis, il y a des enfants qui sont là, puis je veux dire, ces enfants-là, il y en a qui sont nés la veille, puis pouf, Dieu a déposé un jugement sur la ville en entier. Alors, c'est difficile à comprendre, difficile à accepter. Et pourtant, Dieu a décidé de préserver l'Ancien Testament d'une manière extraordinaire. Et l'Ancien Testament, c'est vraiment le fondement même de la foi chrétienne. C'est vraiment la base. Lorsque vous vous replacez à l'époque, les premiers chrétiens annonçaient l'Évangile à partir de, pas de Romains, hein? Annonçaient l'Évangile à partir de l'Ancien Testament. C'était leur livre. Et donc, Dieu a décidé de préserver ce livre-là parce qu'il a de l'importance. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on étudierait l'Ancien Testament? Je sais que vous avez plein de bonnes réponses, là. Je vois qu'il y a plein de monde qui ont déjà étudié ici, là. Selon vous, pourquoi est-ce que c'est important d'étudier l'Ancien Testament? On va juste les énoncer pour ceux qui peut-être seraient moins familiers. Oui, Serge. Pour apprendre, définitivement. On veut apprendre des erreurs de ces gens-là, définitivement. Pourquoi c'est important d'étudier l'Ancien Testament, Stéphane? Pour comprendre le plan de Dieu à travers toute l'histoire. Et Moi, en tout cas, là, j'ai assisté à la conférence avec Don vendredi soir, samedi. C'était délicieux. C'est exactement ça qu'on était en train de voir. Alors, comprendre le plan de Dieu à travers toute l'histoire, l'Ancien Testament est fondamental. Francis. OK, alors on veut comprendre Dieu. Comme Dieu ne change pas, bien les passages de l'Ancien Testament qui peuvent être difficiles à aborder, même tantôt on parlait culturellement, bien il faut réussir à les comprendre parce que Dieu lui a pas changé. La culture a évolué, a changé, s'est transformée, peu importe, mais Dieu lui a pas changé. Oui, il y avait des mains ici. Oui, Annie. Oui, oui. C'est quoi le titre encore? Je vais juste le répéter, parce qu'il est excellent. Oui, c'est ça, où toute la Bible parle de Jésus, la Bible qui murmure son nom, quelque chose comme ça. C'est pour les enfants, là, c'est sorti il y a peut-être 2 ans. C'est excellent, excellent, excellent. Puis effectivement, découvrir dans l'Ancien Testament comment Christ est annoncé, là où Christ est présent, comment Christ intervient, c'est très, très édifiant. Pourquoi c'est important d'étudier l'Ancien Testament? Oui. La préparation, tu veux dire. Oui. Oui. OK. Je veux dire quelque chose de fondamental. Enlever l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament perd son sens. C'est pas juste qu'on le comprend pas. C'est pas juste qu'on comprendra pas certaines richesses. Enlever les 2-3 premiers chapitres de la Genèse, puis je veux dire, on a un gros, gros problème, là. On comprend pas d'où on vient, où on s'en va, puis qu'est-ce qui se passe ici, là. D'accord? La souffrance dans le monde, le mal dans le monde, le péché dans le monde, l'origine de l'humanité, d'où on vient, ça part là sur la Genèse. Et Don Carson l'expliquait très bien. Vous prenez les 3 premiers chapitres de la Bible, puis vous allez dans l'Apocalypse, puis vous mettez ça ensemble, parce que les grands thèmes des 3 premiers chapitres de la Bible reviennent complètement dans l'Apocalypse. D'accord? Alors, l'Ancien Testament est fondamental pour comprendre Dieu, tout simplement. Parce que l'histoire de l'humanité, l'histoire de la création ne fait aucun sens si vous enlevez l'Ancien Testament. On est dans plein de mystères. C'est pas juste qu'on voit, on n'approfondira pas autant notre compréhension de l'Évangile. Souvent, c'est là qu'on s'en va et c'est vrai. Bien étudier l'Ancien Testament, c'est plonger au cœur de l'Évangile davantage. C'est entrer dans une profonde connaissance avec Dieu parce que lorsqu'on voit la relation entre Israël et Dieu, on découvre ce Dieu-là, puis après on va lire Jésus à la lumière de ça. C'est extraordinaire ce qu'on découvre là. Donc ça, c'est vrai. Mais enlever l'Ancien Testament, on connaît pas l'histoire de Dieu. On connaît pas l'histoire de l'humanité. La Bible ne fait aucun sens. Donc, c'est quelque chose d'important de consacrer du temps pour pouvoir étudier l'Ancien Testament, même si lorsqu'on va parler aux gens, on va les encourager premièrement à aller lire un évangile définitivement. C'est là que je commence moi aussi. Je vais les encourager à lire un évangile. Mais ils doivent tôt ou tard aller lire l'Ancien Testament et aller l'étudier. Et un exemple peut-être pratico-pratique, lorsque vous rencontrez un chrétien qui n'arrive pas à se réconcilier justement avec les juges, justement avec les jugements de Dieu lorsque Dieu fait éradiquer des villes au complet. Un chrétien qui n'arrive pas à se réconcilier avec ça n'a probablement pas tout à fait saisi ce que c'est l'enfer. N'a probablement pas saisi toute la profondeur de l'Évangile. Alors si aujourd'hui vous êtes là puis vous lisez ces passages-là puis vous dites, regarde Seigneur, c'est là, mais ça je vais le sauter parce que c'est une partie de toi que je ne veux pas connaître. Si vraiment tu es comme ça, c'est une partie de toi que je ne veux pas connaître. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais tant et aussi longtemps que vous ne verrez pas la grandeur de Dieu dans cette, je vais le dire comme ça, dans cette violence-là, il y a une profondeur, il y a des aspects de l'Évangile que vous n'aurez pas saisi. Et vous n'êtes pas en train de vous préparer à bien accepter la damnation éternelle non plus. Parce qu'on s'entend que ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est de la petite bière comparé à ce qui s'en vient pour l'éternité pour ces gens-là. C'est vraiment rien. C'est juste une petite tape sur les fesses pour les avertir. C'est tout. Puis avertir l'humanité. Donc, c'est ça. On étudie l'Ancien Testament pour comprendre le plan de Dieu. Si vous voulez aller avec moi à la page 2 dans les notes, pourquoi est-ce qu'on étudie l'Ancien Testament? Bien, premièrement, parce que, un peu ce que Francis a mentionné, Dieu ne change pas. C'est la parole de Dieu. On veut connaître Dieu. Il a parlé, c'est les trois quarts, les deux tiers, à peu près trois quarts de la Bible sont formés des livres de l'Ancien Testament. Et donc, si nous voulons le connaître, eh bien, nous devons étudier l'Ancien Testament. Dans 2 Timothée 3, 14 et 16, tout à l'heure, j'ai fait allusion à ça un peu. Paul dit à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » On a quelques dates ici pour situer un peu tout ça, si vous allez dans le paragraphe suivant. C'est quoi les saintes lettres dans lesquelles Timothée a été instruit depuis son enfance? Mais regardez, la deuxième lettre de Paul à Timothée date des environs de 67 après Jésus-Christ. Si on suppose que Timothée avait environ 35 ans lorsqu'il a reçu cette lettre, nous pouvons dater sa naissance aux alentours de 32 après Jésus-Christ. Les premiers livres du Nouveau Testament ont commencé à être rédigés entre 60 et 70. Paul est en train de lui dire, depuis ton enfance, tu as été instruit dans l'Ancien Testament. Ce sont ces saintes lettres-là et elles sont utiles pour connaître Christ. D'accord? Alors, nous avons besoin de découvrir Christ dans l'Ancien Testament. C'est bon? Il y a des gens qui n'ont pas notes, je suis désolé. Les dernières copies sont parties, elles étaient sur la table là-bas. Il y a une feuille qui circule. Survol de la Bible, écrivez dessus, s'il vous plaît, votre adresse courriel. Vous allez recevoir ça par courriel. Et puis, on va s'adapter au nombre d'étudiants ici. Peut-être si j'avais une âme généreuse qui voulait juste faire un décompte, combien est-ce qu'on a de personnes ce matin? Oui, tu veux-tu juste compter combien de monde, puis venir me le dire après, s'il te plaît? Juste compter l'assistance. Merci. Alors, on étudie l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Dans Hébreux 1:1, on lit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. » L'Ancien Testament est la parole de Dieu. Ces prophètes-là étaient envoyés par Dieu. 2 Pierre 1:21 « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » L'Ancien Testament est la parole de Dieu. On a besoin aussi de l'Ancien Testament pour pouvoir comprendre le Nouveau Testament. Vous les avez dénumérés ici, mais sans jeter un regard là-dessus, en quoi on a besoin de l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau? Énumérez-moi quelques éléments pour lesquels on a besoin de l'Ancien Testament, juste de mémoire, pour comprendre le Nouveau. Stéphane.
C'était l'ombre des choses à venir, donc
si
on veut comprendre la réalité présente, c'est important d'aller voir c'est quoi qui est annoncé dans l'Ancien.
Oui, oui. La croix ne se comprend pas bien sans l'Ancien Testament. Par exemple, vous allez parler avec des non-chrétiens, puis ils vont vous dire, ouais, mais c'est... Excusez-moi le terme, c'est gory. C'est sanglant, la croix. Ton Dieu, c'est un Dieu violent parce qu'il a mis à mort son fils. Il y avait un chansonnier québécois là, qui chantait, il a fait une chanson, puis il disait, il parlait d'Abraham. Il parlait d'Abraham, puis il disait à son père, toi, papa, tu n'aurais jamais fait ce qu'Abraham a voulu faire à son fils. Mais en réalité, il est en train de dire qu'il ne comprenait pas le cœur de Dieu. Alors, cette croix-là ne se comprend pas sans l'Ancien Testament. Quoi d'autre? Oui. Oui, oui. D'autres choses? Oui. On pourrait pas bien comprendre la Trinité sans l'Ancien Testament. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Tout à fait. Tout à fait. Merci. C'est bon. D'autres choses? Qu'est-ce qu'on ne peut pas bien saisir sans l'Ancien Testament? Oui. Je pensais que Julie allait dire quelque chose. Oui, vas-y, Luce. La relation avec le peuple choisi, ce qui est le cas pour nous aussi. D'accord? J'ai encore besoin de comprendre la relation entre Dieu et son peuple pour comprendre la relation avec l'Église, définitivement. Alors, que ce soit les fêtes, évidemment, les rituels religieux, tous les rôles autour de ça, mais toutes les prophéties qui nous annonçaient la venue du Messie, comprendre toute la vision de Dieu pour l'Église et le royaume. C'est avec l'Ancien Testament que je vais réussir à comprendre toute la vision de Dieu pour l'Église et le royaume. Comment est-ce que nous, on est appelés à vivre? Quand je comprends quel était le projet de Dieu avec Israël dans l'Ancien Testament et comment Israël devait être une lumière pour les nations, il devait être un royaume qui allait être une lumière pour les nations. Quand j'arrive dans le Nouveau Testament, je saisis davantage, c'est quoi le royaume? Puis où est-ce qu'on est là-dedans, nous autres? Puis c'est quoi notre rôle dans tout ça? D'accord? Alors, toute la notion du royaume de Dieu, de la royauté, de notre rôle à l'intérieur de ça, ça se comprend à la lumière de l'Ancien Testament. Évidemment, le temple. Alors, lorsque j'arrive dans l'Apocalypse, si je veux saisir ce que Dieu veut recréer, là où on atterrit, on aboutit à la fin de l'Apocalypse avec le Jardin d'Éden. D'accord? Alors, je vais comprendre ce que Dieu est en train de recréer là à partir de l'Ancien Testament aussi. Pourquoi est-ce qu'on l'étudie? Parce que les apôtres ont fondé leur doctrine sur les enseignements de l'Ancien Testament. Alors, constamment, eux autres sont en train de faire référence en arrière. Ils s'en vont là-bas. Même sur des notions aussi fondamentales qu'on est sauvé par la foi. Par exemple, plusieurs vont croire qu'on est sauvé autrement dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire lorsque je dis ça? Dans l'Ancien Testament, on était sauvé d'une certaine manière, puis dans le Nouveau Testament, on est sauvé d'une autre manière. C'est faux. C'est complètement faux. On est sauvé de la même manière. La révélation et les temps ne sont pas accomplis dans l'Ancien Testament. On est dans une révélation progressive. La venue du Messie, qui est le moyen de salut, n'est pas venu encore, il n'a pas accompli son œuvre, mais on est sauvé de la même manière dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, par la foi. Et donc, je m'en vais là-bas pour pouvoir comprendre cette idée qu'on est sauvé par la foi. Comprendre ça dans l'Ancien Testament m'aide à comprendre mon rapport aux œuvres. Un chrétien, ça fait quoi? Est-ce qu'un chrétien, ça fait des bonnes œuvres? Est-ce qu'un chrétien, ça fait des bonnes œuvres pour être sauvé? Est-ce qu'un chrétien, ça ne doit pas faire des bonnes œuvres? Est-ce qu'un chrétien, ça peut s'asseoir sur la grâce puis vivre une vie n'importe comment? L'Ancien Testament m'aide à saisir ce rapport à la grâce. Parce que cette grâce-là, envers Israël, est présente dans l'Ancien Testament. Et cette nécessité de porter du fruit, d'être des fils et des filles du royaume, est là dans l'Ancien Testament. Je m'en vais à la prochaine page, la page 4. C'est vraiment une introduction ce matin, on ne va pas vraiment entrer dans la Genèse. On rentre dans la Genèse la semaine prochaine, mais je voulais déposer une base pour l'ensemble de l'Ancien Testament ce matin. Le salut accordé aux nations, on voit ça qui est enseigné en explication, c'est-à-dire on explique le salut accordé aux nations. Ça s'accomplit dans le Nouveau Testament, mais c'est annoncé dans l'Ancien Testament. Ça nous aide à comprendre aussi ce rôle d'Israël et le fait que ce n'était pas annoncé à toutes les nations à cette époque-là. Toute l'idée de vivre dans la sainteté se comprend tellement mieux quand vous étudiez l'Ancien Testament. La notion de sainteté. Puis c'est là dans le discours de Jésus. Parce que selon moi, il n'y a personne d'aussi exigeant comme style de vie que Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, Jésus, c'est le personnage le plus exigeant de toute la Bible en termes de style de vie qu'il demande de ses disciples. Mais en même temps, Jésus, c'est Dieu manifesté. Alors, ce n'est pas Moïse qui parle, c'est Dieu qui est présent. Alors, à tout moment, en Christ, on voit à la fois sa sainteté, sa haine profonde pour l'hypocrisie, pour le mensonge, pour la débauche, pour le mal, puis on voit sa grâce, parce que vous avez toute la personne de Dieu qui est là. D'accord? Et donc, ça, c'est constamment là. Fait que tu lis les évangiles, puis tu te promènes dans des exigences, puis en même temps, une grâce incroyable de la part de Jésus. Puis là, à un moment donné, on fait de la sélection. Hein? On est en train de lire, puis ben c'est sûr que c'est comme plus confortable les parties où Jésus est gracieux. Puis Jésus dit, regardez, si vous voulez être mes disciples, il faut que vous soyez comme ça. Là, c'est ça, être mes disciples. Puis là, après, tu vois qu'il a fait grâce à la femme adultère. Tu vois qu'il fait grâce à Pierre. Tu vois qu'il est patient. Puis tu dis, mais dans le fond, tu sais, c'est ce qu'il aimerait, mais je veux dire, tu sais. Et là, tu t'en vas lire l'Ancien Testament, puis tu comprends plus la notion de sainteté. L'importance de la sainteté dans l'Ancien Testament. Puis là, tu retournes lire Jésus. Ah, là, les choses tombent en place davantage. Et tu comprends que c'est pas parce qu'il est gracieux que Jésus n'a pas une haine profonde pour le mal. Il a en horreur le mal. Tu t'en retournes lire la colère de Christ dans le temple. Tu saisis davantage ces choses-là. C'est pas une mise en scène, là. Il est véritablement en train d'exprimer le cœur de Dieu. Alors, toute cette notion de sainteté se comprend beaucoup mieux à la lumière de l'Ancien Testament lorsqu'on revient dans le Nouveau. Et évidemment, les histoires et les personnages de l'Ancien Testament sont des exemples pour nous. Ce sont des exemples parfois troublants, ce sont des exemples dérangeants, mais ce sont des exemples d'une grande piété aussi. Et donc, on tire énormément d'instructions en apprenant de leur histoire, et c'est ce que les auteurs du Nouveau Testament nous disent, et ce qu'ils font, ils vont les citer comme des exemples à faire ou à ne pas faire. On va parler un peu de la formation du canon de l'Ancien Testament. Qui n'a jamais étudié la question de l'inspiration des Écritures et la formation du canon?
Il y en a qui, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de canon? Oui, OK. Alors, juste quelques notions, puis je vais me concentrer sur l'Ancien Testament. Le canon, c'est la collection des livres qui forment l'ensemble des Saintes Écritures. On parle de 66 livres de la Genèse à l'Apocalypse, d'accord? 39 livres pour l'Ancien Testament qui forment ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Alors, ce matin, pour les 20 dernières minutes, on va parler un peu de la formation du canon. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît l'Ancien Testament comme étant le texte inspiré de Dieu, qu'on n'a pas ajouté d'autres livres? Qu'est-ce qui fait qu'on dit que c'est celui-là qui vient vraiment de Dieu aussi? Est-ce qu'il nous manque des livres? Est-ce qu'on aurait dû en ajouter? Parce qu'il y en a d'autres de disponibles. On appelle ça des livres apocryphes, par exemple. Il y a des prétendants qui sont en ligne puis qui attendent pour pouvoir rentrer là-dedans. Ce sont les livres apocryphes. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font pas partie de ça? Lorsqu'on parle, par exemple, du christianisme en général, vraiment en général, c'est pas tout le monde qui va dire que l'Ancien Testament s'arrête là. L'Église catholique a les livres apocryphes. Il y a quelqu'un qui peut me définir c'est quoi les livres apocryphes. Pas les énumérer, mais c'est quoi? Ceux qui ont fait leur catéchèse, dans le temps, vous connaissez les livres apocryphes? Oui. Ils ne sont pas inspirés de Dieu. OK, c'est de l'histoire, des choses sont rajoutées. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les livres apocryphes? Oui, Philippe. OK. Alors, ce sont des livres qui ont une rédaction tardive, même par rapport à l'Ancien Testament. D'accord? C'est des livres qui sont apparus beaucoup plus tard. Effectivement, ils font partie de la traduction de la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament, mais ils font pas partie de la Bible hébraïque officielle, d'accord? Alors, ce sont des livres sur lesquels il y a eu des questionnements qui se sont posés, et ils n'ont jamais fait officiellement partie d'aucun canon chrétien avant que l'Église catholique, il y a quelques siècles de ça, décide de dire oui, « Oui, ce sont des livres inspirés. Officiellement, on les reconnaît. » Ils font une petite classe à part. D'accord? Il y a le canon de l'Ancien Testament puis il y a les livres apocryphes, mais ils font partie des livres inspirés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi est-ce que ça a été ajouté? Oui. Ben, peut-être avec quelque chose d'autre à dire. La Bible hébraïque, mais évidemment, est en hébreu, d'accord? Et c'est ce qui est généralement reconnu depuis comme toujours comme étant les textes pour les Juifs. Maintenant, ils ont traduit en grec l'Ancien Testament parce qu'il y avait de plus en plus de Juifs qui avaient été avec les dispersions ailleurs et qui n'avaient pas la connaissance pour pouvoir lire directement, et parce qu'il y avait de plus en plus de sympathisants non-Juifs qui voulaient être introduits à cette foi-là, connaître cette foi-là. Et donc ça, c'est la Septante. D'accord? Dans la Septante, on trouve les livres apocryphes qui sont là à côté. C'est une bonne question. La question de Julie, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont été ajoutés? Je vous avoue, je n'ai pas lu précisément sur cette question-là, fait que je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi. Oui? Oui. Maintenant, absolument. Maintenant, il faut savoir que les Juifs ont plein d'autres livres aussi autour, qu'ils n'ont jamais prétendu qu'ils étaient inspirés de Dieu, qu'ils vont utiliser. D'accord? Donc, comme nous aussi, je veux dire, l'Évangile selon Thomas, ça existe, là, d'accord? Mais je veux dire, il ne fait pas partie de la Bible, parce que c'est pas Thomas qui l'a écrit, puis parce qu'il y a des affaires bizarres là-dedans. C'est clair, c'est assez évident pour toute l'Église que ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est sans valeur historique, d'accord? Et c'est pour ça qu'on ne va pas s'abstenir de les consulter parfois, parce qu'il y a des éléments culturels qui peuvent nous aider à comprendre. Oui, Linda? Alors, les livres apocryphes ne font pas partie des livres reconnus comme inspirés de Dieu par l'ensemble de l'Église depuis à peu près toujours. Comme je vous dis, il y a l'Église catholique qui, il y a quelques siècles, est allée en ajouter quelques-uns parce qu'il y avait des points de doctrine qui étaient importants à ce moment-là pour l'Église catholique. Le plus évident, c'est le purgatoire qui est présent là-dedans. Mais effectivement, qu'est-ce qui fait que qu'ils n'ont jamais été reconnus? Premièrement, c'est qu'il y a des contradictions importantes avec l'ensemble de la doctrine des Écritures. Ils entrent en conflit direct. Deuxièmement, on n'est pas capable de valider. Pardon, si je prends par exemple les apocryphes, de l'époque du Nouveau Testament, on n'est pas capable de les rattacher aux apôtres puis aux témoins oculaires de l'époque. Donc, on ne sait pas d'où ça vient, puis il y a des affaires étranges dedans, des contradictions. Stéphane?
Justement, le mot apocryphe veut dire d'origine douteuse. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas certain de l'origine.
C'est ça. Maintenant, il y a eu beaucoup de discussions autour de la lettre aux Hébreux. Parce qu'on ne peut pas affirmer hors de tout doute que c'est Paul ou non qui l'a écrit. Et donc, pourquoi est-ce que la lettre aux Hébreux est là? Parce qu'il y a d'autres facteurs qui viennent jouer aussi dans ça. Est-ce que clairement ça vient de Dieu? Est-ce que l'Église très tôt l'a reconnu comme étant de Dieu? La même chose pour l'Ancien Testament. Oui, dans certains cas. Alors, l'idée, puis je vais prendre ça justement pour continuer à la page 6. L'Ancien Testament, il nous est dit dans l'Ancien Testament que Dieu voulait que sa parole soit écrite. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, on voit cette idée que la révélation de Dieu ne devait pas demeurer une tradition orale, mais qu'elle devait être rédigée. Vous avez par exemple un exemple avec Exode 34, 1 et 28, au bas de la page 6. L'Éternel dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Alors, dans ce cas-là, Dieu a carrément écrit, Dieu a parlé aussi à travers les prophètes. Si on tourne la page dans Exode 34, 27, l'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Alors, quelles sont les preuves, on va appeler ça les preuves internes, d'accord? Quelles sont les preuves internes à l'Ancien Testament qui nous dit que ça, c'est la parole de Dieu? Lorsque je parle de Genèse, puis que je m'en vais jusqu'à Malachie, qu'est-ce qui me dit que ça, c'est la parole de Dieu? Bien, on commence là avec cette idée que Dieu voulait que sa parole soit écrite, qu'elle soit transmise par écrit et qu'on puisse la transmettre à travers les générations. C'est pas un projet d'homme de dire, bon, ben on va mettre ça par écrit parce que sais-tu que je pense qu'on va en oublier des bouts. Dieu a commandé que ça se passe comme ça. Dans certains cas, Dieu a dicté même. Dans certains cas, Dieu a même écrit lui-même. Alors, si vous allez au troisième exemple, dans Ésaïe 38, « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. » Le quatrième exemple, Jérémie, « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. » Alors, nous n'avons pas dans tous les livres de l'Ancien Testament un moment où Dieu dit « écrit ». D'accord? Mais il y a cette notion générale, dans cette période de l'Ancien Testament, où Dieu veut que son témoignage, sa révélation, soit transmise de génération en génération. C'est le témoignage de l'Ancien Testament envers lui-même. C'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait que ça se passe comme ça, d'accord? On a quelques versets, là, je vais le sauter, mais vous pourrez prendre le temps de le lire. Le point 2, les écrits ont été conservés. Alors, on a des versets qui témoignent justement que ces textes-là devaient être préservés, devaient être gardés pour pouvoir être transmis. Allons vers le Nouveau Testament tout de suite, parce que le temps file. Quel est le témoignage du Nouveau Testament à l'égard de l'Ancien Testament? D'accord? Le Nouveau Testament témoigne que l'Ancien Testament est véritablement parole de Dieu. Généralement, c'est ce qu'on trouve partout dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jésus lui-même va reconnaître le canon de l'Ancien Testament dans les termes qui étaient utilisés à l'époque, d'accord? Pour dire, ben voici, c'est l'Ancien Testament. Un peu comme si moi je vous disais en général, ben on va lire la parole de Dieu. Ou si je vous dis, ben la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu, même aujourd'hui, dans un ère postmoderne, je dirais 90% de la population instruite sait de quoi on parle. D'accord? Et il y a même très peu de personnes, lorsque je vais dire, on va lire, si je dis la Bible est la parole de Dieu, très peu de personnes vont dire, ah, OK, tu es en train de me parler de la traduction des témoins de Jéhovah. Non, non, ils savent que ça, c'est une autre histoire. D'accord? Donc, ils savent, lorsqu'on parle de la Bible, qu'on parle à peu près de la même chose. Mais Jésus va parler de l'Ancien Testament dans des termes généraux qui sont utilisés à l'époque pour parler de la parole de Dieu lui aussi. Le premier exemple, l'exemple 1, Luc 11, 49 à 51, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera redemandé à cette génération. » Alors, ici, on a cette reconnaissance de la notion de prophétie. Maintenant, Luc 24, 44, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Ces trois catégories-là, la loi de Moïse, la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, les prophètes et les psaumes, c'était l'expression générale utilisée à l'époque pour parler de l'Ancien Testament au complet. D'accord? Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que tout l'Ancien Testament parle de moi. Tous les Juifs de l'époque, c'est ce qu'ils ont compris quand Jésus a dit ça. Ils n'ont pas compris, attends un peu, tu as dit la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, donc tu es en train de dire peut-être que les livres historiques ne parlent pas de toi. Peut-être que dans les rois, ça ne parle pas de Jésus. Quand Jésus a dit ça, les Juifs de l'époque ont compris, tu es en train de nous dire. Puis là, eux autres, ce qu'ils se sont dit, c'est mon espèce de prétentieux, ça. Tu es en train de nous dire que de la Genèse à Malachie, ça parle de toi. Oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. D'accord? Il a utilisé cette expression qui était commune à l'époque pour parler de tout l'Ancien Testament. Témoignage des apôtres, Romains 3, 21, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Encore une expression générale pour parler de l'Ancien Testament. D'accord? La loi et les prophètes, les deux grandes catégories que les Juifs utilisaient pour décrire. Citation et allusion à l'Ancien Testament. Alors, le Nouveau Testament contient près de 225 citations directes de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament contient jusqu'à 900 allusions à l'Ancien Testament. Quand on parle d'allusion, on parle de type. Ils vont pas citer, on peut pas trouver quel verset ils citent, mais ils font référence soit à des personnages, soit à des événements dans l'Ancien Testament. Et seulement 7 des 39 livres de l'Ancien Testament n'ont pas d'allusion directe dans le Nouveau Testament. Juges, Ruth, Esdras, Néhémie, Esther, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Ces livres-là, on ne trouve pas avec certitude une allusion à ces livres-là dans le Nouveau Testament, ce sont les seuls. Ça, c'est ce qu'on dirait des preuves internes. D'accord? L'Ancien Testament dit qu'il est parole de Dieu, dit qu'il devait être écrit. Le Nouveau Testament reconnaît l'Ancien Testament. On pourrait aller dans d'autres domaines, d'accord? On pourrait aller voir les prophéties qui se sont accomplies, tout ça. Ce n'est pas un cours sur l'inspiration des Écritures, mais pourquoi est-ce qu'on reconnaît l'Ancien Testament et ce groupe de livres-là comme étant l'Ancien Testament, la parole de Dieu? Ça, c'était pour les preuves internes, les preuves externes. Les textes de l'Ancien Testament ont été conservés par des scribes qui prenaient une attention particulière pour bien recopier les textes. Je n'irai pas dans ça. C'est quelque chose qui est intéressant à lire. Je pense que... c'est sur Ralph Schadis? Non, c'est qui? Sur l'inspiration des Écritures, là, le classique. Je pourrais vous le citer peut-être la semaine prochaine. Il y a peut-être 2-3 chapitres dessous. Il fait juste nous expliquer tout le processus de conservation pour l'Ancien Testament, simplement, quelle était leur méthode de travail. Lorsqu'on arrive dans la période aussi après Jésus-Christ, quelles étaient leurs méthodes de travail pour conserver ces livres-là. Et simplement étudier la qualité de la conservation de ce livre-là, tout spécialement l'Ancien Testament. La qualité de la conservation de ce livre-là, c'est phénoménal. C'est pas comparable dans l'histoire de l'humanité. D'accord? Il n'y a pas d'autres livres qui ont été préservés comme ça. Et quand on dit ça, c'est pas quelque chose qui est discutable. Il n'y a pas autant d'énergie et autant de qualité de travail qui a été consacrée pour le préserver. Jusqu'à tout récemment, les manuscrits les plus anciens du texte original dataient des environs de l'an 1000. Alors, jusqu'à il y a quelques décennies, nos textes, nos manuscrits, là, tu sais, là, que ça a été écrit, là, c'est les plus anciens dataient de l'an 1000, pour l'Ancien Testament, je parle, d'accord? Et donc, ça pose une question, oui, mais qu'est-ce qui vous dit que ça, c'est fiable? Et ça soulevait toutes sortes de questions, les gens émettaient toutes sortes d'hypothèses. Maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, a permis que les choses changent. Le dernier paragraphe. En 1947, un jeune berger de la région de Qumran, près de la mer Morte, découvrit des manuscrits de plusieurs textes de l'Ancien Testament. Cette découverte fut impressionnante car les manuscrits des textes retrouvés datent de près de 200 ans avant Jésus-Christ. Ce sont les plus vieux manuscrits qui ont été retrouvés. Alors, on était à 1000 ans, puis là, on vient de rapetisser ça comme de 1200 ans, et puis on compare, c'est ça qu'on fait. Il y a des spécialistes qui consacrent leur vie à comparer les manuscrits pour dire, parce qu'on parle de milliers là, de manuscrits, vont les comparer pour dire c'est quoi les nuances, c'est quoi les endroits où le texte dit pas exactement la même chose. Et le texte a été très, très bien conservé. On a fait un bond en arrière. C'est comme si on retournait à, je sais pas moi, un autre bond de 1000 ans avec une autre découverte. Tu regardes le texte, tu te dis, mais il est encore fiable. Il est encore fiable, ce texte-là, qui est beaucoup plus vieux. C'est d'ailleurs un des éléments de discussion lorsqu'on discute avec des musulmans. D'accord? Les musulmans se confortent beaucoup, beaucoup, dans l'idée que l'Ancien Testament a été altéré par les Juifs et le Nouveau Testament a été altéré par les chrétiens. D'accord? Parce que si vous parlez avec un musulman, ils vont vous dire, par exemple, que les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ce sont les trois religions du livre. C'est les trois religions du livre. Et donc, ils vont dire, nous, on a énormément de respect pour vous. Puis on a beaucoup de respect pour la Torah, on a beaucoup de respect pour l'Injil, l'Évangile, dans leur langage. Et puis, il y a le Coran. Leur problème, leur difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils vont dire, on a du respect pour le texte qui n'a pas été altéré, mais celui-là, vous ne l'avez plus. D'accord? Vous n'avez plus ça, donc vous ne pouvez pas le savoir. Et donc, chaque fois que le Coran cite l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ce qu'il fait énormément, le Coran cite beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament, c'est frappant, ça ne colle jamais. C'est toujours tout croche, c'est toujours déformé, hors contexte. Puis là, tu dis ça, puis tu dis, ouais, mais c'est quoi cette affaire-là? Puis, si tu parles avec un musulman, il va dire, mais oui, mais c'est parce que votre texte a tout été falsifié. Puis quand tu commences à discuter avec eux, tu dis, attends un petit peu, là. C'est parce que notre texte, on a des textes qui remontent à bien avant la rédaction du Coran. Fait que tu es allé chercher où ça, que ça a été falsifié? Nos textes remontent bien plus vieux. Nos manuscrits sont beaucoup plus vieux que ça, puis ils sont conformes avec ce que nos Bibles d'aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui, disent aussi. Comment tu fais pour dire que Mahomet, qui a vécu des siècles plus tard, aurait eu comme la bonne version? C'est quoi cette affaire-là? Alors, tout leur argumentaire, parce que ce que ça les amène à dire, c'est on a beaucoup de respect pour tout ça, mais la révélation qui a été bien conservée, c'est le Coran. Les autres révélations n'étaient pas complètes. C'était une révélation progressive, un peu comme nous, on croit. Mais ça, ça a été falsifié, donc c'est pas fiable. C'est le Coran qui est fiable. Or, la vérité, c'est que Mahomet n'était pas un homme instruit. C'est un illettré. C'était pas un homme cultivé. Ses citations de l'Ancien Testament sont souvent farfelues, ne respectent pas le texte, c'est très clair. Et on a des textes qui datent de bien avant que Mahomet ait existé. On peut aller les lire, on peut aller lire ces histoires-là. Et quand tu commences à lire le Coran, moi, j'ai pas de problème à ce que vous lisiez le Coran, soit dit en passant. C'est un bel exercice à faire. Pas pour mépriser, pour comprendre cette culture-là. Mais quand tu commences à lire le Coran, puis tu vois à quel point il y a une incompréhension profonde de plein de choses fondamentales dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau Testament, tu comprends vraiment qu'il n'y avait pas de culture, c'est une espèce d'amalgame de croyances qui a été bâti là. Donc, la préservation des manuscrits à travers les siècles est un des témoignages externes qui nous amène à reconnaître l'Ancien Testament comme étant de Dieu. La Bible hébraïque, parce que jusqu'à présent, ce qu'on parle, c'est l'Ancien Testament utilisé par nous. Mais la Bible hébraïque, les Juifs reconnaissent exactement les mêmes livres que nous comme étant leur Bible. Ils n'est pas organisé exactement de la même manière que nous. D'accord? Vous avez le détail là, ici. On va manquer un peu de temps, alors je n'irai pas là-dedans, mais c'est pas structuré. C'est-à-dire l'ordre des livres n'est pas exactement le même, mais ce sont les mêmes livres que nous. Alors ça, pour nous, c'est un témoignage supplémentaire. Flavius Joseph, historien, 1er siècle après Jésus-Christ, justement, c'est ce qu'il affirmait. Il disait, contrairement à toutes sortes de choses qu'on lit et qu'on voit, toutes sortes de religions, il n'y a pas beaucoup de discussions sur ce que nos textes disent. On a tous les mêmes textes et ils se tiennent. Déjà, à cette époque-là, c'était un argument qui était utilisé par Flavius Joseph pour affirmer que c'était la parole de Dieu. Et puis, dernier élément. Non, avant-dernier élément. Les listes. Comment est-ce qu'on fait pour dire après ça que c'est Genèse à Malachie qui sont ces livres-là et c'est ces livres-là, pas d'autres livres? Bien, comme je vous dis, les Juifs les ont reconnus comme étant la parole de Dieu. Et l'Église, assez tôt aussi, on voit apparaître dans des écrits, des pères de l'Église, des listes de livres, une énumération comme notre table des matières. Alors, on en voit apparaître aux environs de 170 après Jésus-Christ. Je suis au bas de la page 9. Après avoir été en Orient pour étudier l'ordre et le nombre des livres de l'Ancien Testament, Méliton de Sardes donne un compte-rendu de tous les livres à l'exception d'Esther. Donc, il les énumère tous. Origène, en 254 après Jésus-Christ, laisse lui aussi une liste de 22 livres comparables à celle de Flavius Joseph. Alors, l'Église, très tôt, a reconnu aussi ces livres-là comme étant ceux qui composaient le canon de l'Ancien Testament. On a parlé tout à l'heure des livres apocryphes à la page 10. J'irai pas trop là-dedans. Vous avez la date ici. C'est au Concile de Trente, en 1546, que l'Église catholique a reconnu comme canoniques les livres apocryphes. Ces livres-là leur permettaient de défendre un certain nombre de doctrines qui étaient importantes pour l'Église catholique. Mais ça s'est passé, si on le place en 1546, c'était une réponse au protestantisme, d'accord? Martin Luther, d'autres avant lui même, sont en train de redécouvrir la relation entre la loi, l'Évangile, le salut, la foi. Sont en train de réaliser que, wow, attends un petit peu, là, on a une espèce de parodie de l'Évangile qui s'est développée à travers les siècles, un système, dans le fond, pour garder les gens dans un système de pénitence et tout ça. Et puis là, il y a un schisme, il y a une division à l'intérieur de l'Église. Ces hommes-là essaient au début de réformer l'Église de l'intérieur. Martin Luther n'avait jamais dans ses plans d'aller fonder l'Église luthérienne, mais au moment où il quitte l'Église, c'est qu'il est excommunié, puis c'est une question de vie ou de mort, parce qu'on lui court après pour le mettre à mort, et puis là, il dit, il s'est trouvé un protecteur, un seigneur, puis il dit, OK, on va ouvrir une église où on va enseigner les choses comme il faut, c'est tout. Et là, il y a un mouvement qui est en train de se répandre partout en Europe. On ne rentrera pas dans tout ça, c'est dans le survol d'histoire d'église qu'on voit ça. Mais donc, il y a un mouvement qui se répand partout en Europe à ce moment-là, et l'Église catholique doit faire face au fait que la Bible n'affirme pas clairement des choses qu'elle affirme, comme le purgatoire, par exemple. Ça donne qu'on a une couple de livres apocryphes qui pourraient mieux défendre ce qu'on croit. Concile, et on reconnaît ces livres-là comme étant inspirés de Dieu. On les rentre là-dedans. D'accord? Comme dans le fond, vous allez trouver avec des mouvements qui ont leur propre révélation, le livre des Mormons, des choses comme ça, qui viennent justifier des doctrines qui ne sont pas présentes dans les Écritures, puis qui sont là pour appuyer des choses qu'eux autres veulent mettre de l'avant ou croient. Quels sont les critères utilisés pour la reconnaissance des livres inspirés? Bien, comme je vous dis, dans le cas de l'Ancien Testament, on part de loin, ce sont comme les livres qui ont toujours été reconnus comme étant inspirés de Dieu. Alors, les traces d'un processus pour les reconnaître sont moins évidentes que pour le Nouveau Testament, où on a beaucoup plus d'informations, des écrits, des pères de l'Église, les discussions, des réunions où les gars disent « Ouais, OK, mais la lettre aux Hébreux, on ne sait pas c'est qui l'a écrit, c'est-tu vraiment clair que ça vient de Dieu? » Là, c'est un petit peu plus clair dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ça a comme été toujours reconnu, mais en même temps, les critères qu'ils avaient, c'était est-ce que ça a été écrit par un prophète? Est-ce qu'il est conforme à la Torah, aux cinq premiers livres de la Bible? Le livre fondateur pour les Juifs, c'est le livre de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est le fondement du judaïsme, d'accord? Et tout livre qui serait venu après, qui serait entré en contradiction avec ça, n'aurait pas été reconnu comme venant de Dieu. C'est vraiment le moment où Dieu se révèle à son peuple et dit « Écris, là, je te donne la loi, je te donne l'alliance. » Et puis, évidemment, le Saint-Esprit qui a guidé sa reconnaissance. Ce dernier critère est important car il nous permet de reconnaître que c'est Dieu qui a guidé la formation du canon de l'Ancien Testament. Ce fait a été prouvé par la conservation, comme on l'a mentionné, de chacun des livres de l'Ancien Testament et par le fait que chacun des livres a été reconnu dès les premiers siècles de l'histoire de l'Église, tel que mentionné dans Gleason Archer. L'Église, par exemple les apôtres, qui étaient avec Christ, qui ont reçu l'Esprit Saint, qui ont entendu ses enseignements, reconnaissaient ces livres-là comme étant inspirés de Dieu. Et le témoignage qu'on y lit est un témoignage qui est conforme à l'ensemble de la révélation de Dieu. Une fois qu'on a dit tout ça, je vous dirais que l'élément le plus important pour moi comme croyant qui m'amène à dire que c'est la parole de Dieu, et là, pour des non-croyants, pour des non-chrétiens, ça deviendrait très discutable, mais ça reste l'élément le plus important pour moi, c'est que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que c'est la parole de Dieu. Et si je prends le temps de mentionner ça, je sais que je rentre comme dans une zone subjective, mais ça devrait être votre expérience, ça devrait être l'expérience de cette Église à tous les jours. Lorsque j'ouvre la Bible, moi cette semaine j'étais down. Vous dites, cette semaine j'étais down. J'ai des moments là. Ce matin j'étais hype. Ce matin c'était comme yeah, Jésus règne. Je m'en vais à l'église. Mais cette semaine je sais pas, j'étais down. C'était comme l'eau puis Dieu, j'aurais voulu pouvoir me plugger quelque chose. C'était pas là, tu sais. Puis à plusieurs reprises, j'allais vers les Écritures en c'était une lamentation. C'est Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de t'entendre. Puis je veux pas aller écouter un film. Ça, c'est fait pour comme oublier la vie. Non, j'ai besoin de la vie. Je me sens vide de vie. J'ai besoin qu'elle entre en moi. Puis j'ouvre les Écritures. Puis des fois, ça, une journée, ça a pris 45 minutes environ. À dire, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin que tu viennes charger ma batterie, que ma vision soit claire, que je sois passionné pour toi. Mais Dieu le fait à tous les coups. Et donc, pour moi, dans mon expérience personnelle, c'est ça la plus grande preuve. C'est que Dieu fait de moi un homme qui aime Dieu. Dieu fait de moi un homme qui prend plaisir à se repentir, à s'humilier, à demander pardon. Dieu fait de moi un homme qui veut aimer les gens autour de lui. Dieu fait de moi un homme qui veut aimer la sainteté, qui veut marcher dans la sainteté. Je sais que c'est pas moi, ça. Comprenez? Je connais mon histoire. C'est pas Yannick, tout ça. C'est l'Esprit de Dieu en moi, tout ça. C'est lui qui produit en moi cette œuvre-là, qui fait vivre ce cœur nouveau-là en moi. Et donc, mon expérience personnelle est un témoignage important. Et si je prends le temps de dire ça, c'est parce que ça devrait être le facteur le plus important pour vous. C'est correct d'arriver à la foi, puis de dire, écoute, j'ai besoin que tu me rassures, là, parce que ça a été comme, c'est vieux, ce livre-là, ça a-tu bien été conservé, qu'est-ce qu'il y en a avec cette affaire-là, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent toutes sortes de choses sur ce livre-là. C'est correct d'avoir à faire des lectures, puis d'avoir besoin de se rassurer, tout ça. Mais ça, c'est l'introduction à la foi, c'est pas l'expérience de la foi. À un certain moment donné, matin après matin, jour après jour, je passe à un autre niveau, là. Je m'en vais rencontrer Dieu dans la parole. D'accord? Et qu'est-ce qui fait, moi, que je sais que Dieu existe puis que Jésus va revenir? C'est que j'ai connu Jésus-Christ. C'est ça. Parce que je veux dire, je ne peux pas vous le présenter, là. Ce matin, il n'apparaîtra pas sur le stage. Il pourrait nous surprendre, là, mais en principe, il n'apparaîtra pas sur l'estrade. Comprenez? C'est mon expérience personnelle d'une vie transformée par l'Évangile. Et donc, si vous venez à ce cours-là de l'Ancien Testament en disant, faudrait que je me retrempe dans les Écritures, tu sais, c'est comme ça prend plus toute la place que ça doit prendre dans ma vie. Le cours va être là comme un support pour vous aider à plonger plus loin dans les Écritures, mais la clé, c'est pas ça. La clé, c'est quand vous rentrez cet après-midi, au lieu d'aller nettoyer le char, vous faites un bon café, profitez du soleil, vous ouvrez votre Bible, puis vous dites, Éternel, parle-moi. Puis vous restez là jusqu'à ce qu'il vous parle. C'est ça la clé. Quotidiennement. Quotidiennement. C'est bon? On va terminer avec un mot de prière, puis la semaine prochaine, on entre dans la Genèse. Éternel notre Dieu, je veux te remercier pour le beau soleil à l'extérieur, mais surtout, Seigneur, pour celui que tu as placé dans mon cœur, à savoir Christ, la lumière de ma vie, la lumière de ce monde, Seigneur. Cette vie qui vibre en moi, c'est ton esprit, Seigneur Jésus. Et nous voulons t'honorer en étudiant ta parole cette année. Nous voulons ouvrir, Seigneur, ces livres, pour te découvrir, pour connaître qui tu es, Dieu, et qui tu es, Seigneur Jésus, et tout ce que tu as prévu, tout ce que tu as eu comme dessein pour l'humanité, Seigneur. Et nous voulons apprendre nous-mêmes à marcher quotidiennement à la lumière de cette révélation. Alors, je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Certains ont peut-être besoin justement d'être affermis dans leur conviction que ces livres sont bel et bien paroles de Dieu. Bien le faire, Seigneur, à travers toute l'année. Certains ont peut-être besoin, Père, de découvrir l'Ancien Testament parce qu'ils restent campés dans quelques livres du Nouveau Testament, inconfortables avec certains livres de l'Ancien. Seigneur, accorde-moi la grâce de bien exposer toute la richesse et la beauté de ces livres, de donner des bonnes clés pour aller vers ces livres. Et Seigneur, certainement, chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être renouvelés quotidiennement dans ta parole pour méditer ta précieuse parole et te rencontrer et expérimenter quelle est la parole de Dieu. Et je te le demande pour chacun d'entre nous dans cette classe. C'est en Jésus-Christ que je te prie, Père. Amen. Amen. En terminant, il y a une feuille qui circule, c'est écrit « Survol de la Bible ». C'est important, s'il vous plaît, de mettre votre nom avec votre adresse courriel, surtout si vous n'avez pas eu de notes ce matin, on vous les envoie dès le début de la semaine, et vous allez les recevoir le samedi précédemment les cours, d'accord? Et puis, il y avait un frère, je pense André, qui faisait un décompte pour me dire combien on avait de personnes ici ce matin. Merci.